BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition estivale de BFM Bourse sur des places financières qui globalement continuent d'aller très bien. Alors c'est vrai que c'est pas très décidé à Paris et on s'oriente vers une clôture sur le fil du rasoir, mais avec un nouveau record absolu. On était tout proche des 8700 points en tout début de séance. 8693 points. C'est le nouveau record à battre. On est un petit peu en dessous. C'est vrai que la tendance est un petit peu effritée au fil de la journée et on est sur le point de terminer quasiment inchangé. Là, on est en baisse de 0,01% à quelques minutes du fixing à 8665. Alors, on va voir si on bat un nouveau record de clôture comme hier. En tout cas, les marchés fonctionnent un petit peu sur leurs acquis, sur les bons résultats d'entreprise, sur une accalmie qu'on espère du côté géopolitique, notamment entre Américains et Iraniens. Les discussions sont en cours. On va voir comment ça évolue. Mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Bon, c'est la 37e fois qu'on nous fait le coup. Mais le marché y croit. Les prix du pétrole restent quand même modérés. On est toujours sous les 80 dollars, notamment pour le Brent de mer du Nord. Donc un CAC 40 quasi inchangé. Du côté des autres places européennes, léger recul pour l'Eurostock 50, moins 0,15%. Le DAX à Francfort, moins 0,24%. On est en hausse du côté de Madrid à plus 0,20%. 22%. Les gros titres du jour, bon, ils restent toujours les mêmes. C'est vrai qu'il y a la géopolitique entre Iran et Amérique, mais il y a aussi tout un contexte monétaire qui est lié par des effets directs et indirects autour des marchés de taux, qui restent quand même relativement tendus malgré une petite accalmie à court terme. Sur le niveau du yen, il se passe des choses autour du yen et on sait que l'été, c'est pas une saison très très favorable aux mouvements brusques de marché et surtout des ajustements importants sur des monnaies importantes comme le yen. Donc on va voir tout ça. Et puis il y avait le titre du jour, à savoir SpaceX, le géant du spatial dirigé par Elon Musk, qui publiait ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse il y a quelques mois. Bon, autant dire que les résultats dépassent toutes les espérances des analystes, mais que l'accueil est quand même très très frisqué. Moins 7% pour le titre SpaceX en ce moment à Wall Street. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette baisse et en particulier des raisons plutôt techniques. On va voir ça du point de vue des gestionnaires et on aura un beau plateau dans quelques secondes pour parler de tout ça. Déjà, Sébastien Corchia, directeur général, directeur des investissements chez Cogefi. On sera aussi avec Tommy Douzier de Zone Bourse ainsi que Gilles Santacreux pour l'aspect technique des choses. Gilles Santacreux de Boursicoté. On va peut-être commencer avec vous, Sébastien Corchia. On reste sur une tendance, bon, un petit peu indécise du côté de la clôture, mais enfin, on sent que le CAC 40 fonctionne sur ses acquis et qu'il n'y a pas de raison qu'on corrige. La dynamique reste quand même très très solide.
Oui, vous avez raison, Antoine. La dynamique, elle reste très solide. Alors, elle se voit pas forcément effectivement sur le CAC 40. Elle se voit plus sur les marchés américains parce que ça ressemble quand même plutôt à une soirée techno en plein été à Ibiza que à une séance de bourse traditionnelle. Je dis ça parce que quand je vois des Palantir qui gagnent 30% en une séance, que Microsoft a fait 41% en 6 semaines ou qu'Amazon a gagné 20% en 2-3 jours, et je vous parle même pas des ETF sur les mémoires, etc., on se dit quand même que c'est une grande fête sur les valeurs techno. Alors bien sûr, là, ça souffle un petit peu, mais ça se pose, mais il y a des rotations, elles sont quand même extrêmement violentes. Mais si on y regarde de plus près, d'ailleurs, en Europe, sur cette techno, on voit même, parce qu'on en parle un peu moins, mais rappelez-vous que quand les technos de mémoire ou de semi-conducteurs montaient, on balançait à la poubelle toutes les valeurs de logiciels. Eh bien, si vous regardez bien, vous apercevez que même un SAP, grosse valeur emblématique en Europe, a gagné 30% en 9 séances, et quelques valeurs qui étaient considérées comme mortes avec l'IA, je pense à un Wolters Kluwers par exemple, ça a gagné pareil presque 30% en une dizaine de séances. Donc on voit que la techno partout dans le monde, elle est quand même à la fête.
Tommy Douzier, Zone Bourse, c'est aussi votre avis? On assiste peut-être au comeback du siècle sur la techno. C'est vrai qu'on a quand même pas mal corrigé depuis les derniers plus hauts. Il y avait une sorte d'écrémage des marchés qu'on a passé notre temps à commenter comme étant une reprise de souffle. Maintenant, il y a peut-être quelque chose à jouer là en ce moment, puisqu'on le voit du côté de Wall Street. On est sur des records absolus, d'ailleurs, pour le S&P 500 et pour le Dow Jones, mais le Nasdaq a encore beaucoup de terrain à rattraper, et c'est peut-être justement cette variable qui va dominer le marché, peut-être sur le second semestre.
Tout à fait, Antoine, je rejoins un peu ce que dit Sébastien sur les publications, la saison de publication qui a été vraiment exceptionnelle, notamment sur le compartiment technologique. Donc, il n'y a pas de raison de pas revenir sur le marché et sur ce secteur de la techno qui a un petit peu baissé, notamment la semi-conducteur au mois de juillet, où il y a eu des baisses assez marquées sur la mémoire, etc. On a perdu des 20, 30, 40% sur pas mal de valeurs. Donc oui, nous, on regarde ça plutôt avec optimisme. Les bénéfices, ils n'ont jamais été aussi élevés de toute l'histoire. On a une croissance de 47% du S&P 500. Alors, certes, c'est trusté un petit peu par certains géants comme Alphabet ou Amazon qui ont bénéficié en plus de résultats exceptionnels sur leur business classique de leur investissement dans des titres comme SpaceX, comme Anthropic pour Alphabet. Mais même si on retire ces deux géants, on reste quand même à 29% de croissance sur le trimestre pour tout le S&P 500, donc c'est quand même exceptionnel. Et on voit que ça s'étend à l'ensemble des secteurs, parce qu'il y a quand même 8 secteurs sur les 11 secteurs qui existent en bourse sur le S&P 500 qui affichent des croissances à deux chiffres. Donc tout ça, c'est très positif. Je pense que c'est pas seulement techno-centré, même si effectivement les semi-conducteurs captent quasiment la moitié de cette croissance. Finalement, même pour les autres, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, c'est quand même très positif. D'autant plus que ce qui est rassurant, c'est que c'est même aussi soutenu par l'économie américaine. On a vu l'ISM manufacturier qui est au plus haut depuis 4 ans. On a vu le chômage qui reste à 4%, les créations d'emplois qui repartent dans le bon sens. Donc tout ça, c'est très positif et c'est pas uniquement porté par un secteur, même si, et il est vrai, le secteur de la techno est très intéressant et afficher une fenêtre d'entrée intéressante pour ceux qui ont loupé le train précédemment.
Et puis, on peut dire qu'à court terme, c'est les soldes aussi, puisqu'on voit AMD qui a publié ses résultats aussi. Hein. C'était une des grosses publications qui était attendue. AMD qui perd 6,5%. Palantir, moins 1,7%. Mais c'est vrai qu'on sort d'une grosse correction et d'une brusque remontée. Hein, à croire qu'on a vraiment une dynamique de reprise intéressante sur la tech. Mais c'est vrai que c'est pas le seul facteur qui explique cette grande force des marchés. Allez, le fixing pour le CAC 40. Ça y est, la séance est terminée à Paris. Le CAC 40 qui finit dans le vert et de justesse avec un nouveau record de clôture, 8669 points, plus 0,03%, avec en séance, en début de séance, un nouveau record absolu aux portes des 9700 points. On était à 8693. Donc, double play là pour le CAC 40. À noter des tendances un petit peu plus disparates, hein, du côté des autres indices européens. Eurostock 50, moins 0,15%, moins 0,29% pour le DAX à Francfort, plus 0,21% pour l'IBEX à Madrid. L'Euronext Tech Leaders était à peu près dans la tendance avec un petit gain de 0,07%. Les principaux gagnants de la séance du jour à Paris, Publicis, plus 3,05, 97,16€. C'est la plus forte hausse du CAC. Euronext, plus 2,48. 161,10, Kering plus 1,79 à 284,30€. Et parmi les plus fortes hausses du SBF 120, de l'indice large, DBV Technologies gagne 5% à 2,43€, Vusion plus 4,7% à 133€ et Nexans plus 3,9%, 138,10€. Donc vraiment un mélange de tout un tas de valeurs, hein. Il n'y a pas véritablement de fil conducteur. On a fait sans doute un petit peu du cas par cas parmi les valeurs qui sont plutôt vendues. Alors à noter Orange, plus forte baisse du CAC à moins 3,26, 15,90€, ou encore Stellantis, moins 83, 4,91€. On se rapproche à nouveau des plus bas historiques, hein, sur Stellantis. À noter Ubisoft qui signe la plus forte baisse de l'indice large du SBF 120, moins 6,2% à 5,24€. SES, hein, valeur satellite, moins 3,7% à 5,44€. Peut-être entraîné à la baisse par les résultats, en tout cas pas les résultats, mais l'accueil qui est fait à SpaceX après ses premiers trimestriels. Hein, le titre est en baisse de 7,7% du côté de Wall Street et on va en reparler dans quelques secondes. En attendant, quelques mouvements à signaler du côté des changes. L'euro qui forcit un petit peu, 1,1551. On va regarder un petit peu les taux sur le marché obligataire, parce que c'est là que tout va se jouer au second semestre. Française 10 ans, 3,12 pour le 10 ans allemand et la dette américaine à 4,63. Oui, et puis regardez l'or. L'or qui s'envole comme tout bon actif risqué, on va dire, pour faire la blague. On est passé de 4100 à $4,300 depuis le début de la semaine, 4318 à l'instant. Gilles Santacreux, boursicoté.com. Et finalement, on va peut-être commencer par là. C'est l'or qui signe un retour en grâce assez exceptionnel là sur les dernières séances. Bonjour Gilles.
Bonjour. Ben oui, effectivement, l'or étonne parce qu'on l'attendait pas trop. Ça s'est déclenché dans la nuit, hein, vers 2 heures du matin. On a commencé à avoir un mouvement haussier qui s'est confirmé. On a gagné plus de $200 en quelques heures. Et du coup, ça envoie des signaux techniques qui sont assez intéressants puisqu'on sort d'un range que l'on occupe depuis maintenant quelques jours. On revient sur des niveaux que l'on n'avait plus cotés depuis le milieu du mois de juin. Donc c'est un signal qui attend une confirmation puisqu'on était dans une tendance de fond qui restait plutôt baissière d'un point de vue court terme, mais avec l'impulsion du jour, en fonction des réactions qui vont suivre, eh bien on pourra éventuellement avoir un signal de retournement assez intéressant puisqu'on a une dynamique assez forte sur ce retournement qui pourrait donc être exploitable. Donc c'est un actif à suivre effectivement pour les prochains jours.
Intéressant hein, ce qui se passe sur l'or, effectivement. Bon, le CAC 40, donc je le disais, un double play avec un record historique absolu à 8 693 points et un nouveau record de clôture à 8 669. Bon, il y a peu de chances que les choses aient vraiment changé du point de vue graphique, mais voilà, la tendance est toujours robuste, dynamique, on va dire. J'ai pas regardé les volumes, tiens, j'avais pas le plip à l'instant du fixing, mais ils doivent être corrects hein, pour une séance d'été. Les volumes d'échange sur le CAC 40, 3,5 milliards, hein, sauf erreur de ma part, Gilles.
Oui, alors au niveau du CAC 40, ce qui est intéressant, c'est d'observer un petit peu la dynamique que l'on a depuis le début de la semaine. Vendredi, on avait commencé à avoir des signaux de cassure de résistance, et puis ça s'est confirmé donc lundi. On a ce qu'on appelle une configuration qui se fait hors Bollinger, c'est-à-dire la bande de Bollinger, ça mesure un écart type par rapport à une moyenne mobile. Et lorsque l'on dépasse ces zones, eh bien, on est dans des phases d'accélération dynamique. Là, c'est ce que l'on a, c'est-à-dire que l'on a l'intégralité des 3 dernières séances qui s'est jouée à l'extérieur de ces bandes et donc qui dénote d'une dynamique haussière assez forte. On confirme aujourd'hui, puisque même si on a eu du mal à clôturer en hausse, eh bien on a des plus hauts et plus bas, donc correspondant à la loi de Dodd, qui sont supérieurs à ceux de la séance précédente, ce qui confirme la dynamique en cours. Donc on est potentiellement sur un début de tendance alors que l'on a un nouveau point haut significatif et donc un nouveau record historique sur le CAC 40. C'était attendu, mais là on confirme et donc ça pourrait être là aussi un signal précurseur qui pourrait nous donner une tendance pour les prochains jours. Donc là aussi, c'est à surveiller, et notamment, on va surveiller donc l'ancienne zone de résistance à 8640 points, qui, tant qu'elle n'est pas refranchie à la baisse, eh bien, nous donnera un potentiel assez intéressant pour l'indice parisien.
Merci Gilles, vous restez avec nous pour commenter hein, évidemment les valeurs et les grandes tendances du jour tout au long de ce BFM Bourse. Sébastien Corchia, au-delà des valeurs, au-delà des indices, il y a quand même un contexte monétaire, géopolitique, relativement fragile, sur lequel on essaie quand même de s'appuyer là en ce moment. Mais entre, j'allais dire, Iran, États-Unis et finalement Japon, on tient peut-être les trois bandes du billard de l'été. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, dans le sens où on a l'impression que tout va avec tout.
Oui, vous avez raison, Antoine. Alors déjà, de manière générale, on peut dire qu'il y a un peu deux salles, deux ambiances. Hein. Mmh. Il y a la salle action, on l'a évoqué, qui marche très bien, que ce soit sur les technos de manière large, sans entrer dans les détails, que sur les actions, parce que la réalité des choses, c'est que la croissance attendue des bénéfices aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe, mais même en Europe, est forte, donc le sous-jacent action est bon. Mais à côté de ça, vous avez une deuxième salle, où pour le coup, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'ambiance sourire et fête. C'est très compliqué. Les taux longs, vous le savez, se tendent un petit peu de partout. Les banques centrales sont promptes à vouloir remonter leurs taux, que ça soit au cours au Japon, en Europe, à la rentrée ou aux États-Unis. Et on a du mal à y voir clair. Et pourtant, il y a peut-être des fils qui se tiennent les uns les autres, en tout cas des relations. Et ce qui est intéressant, parce que moi je trouve que on a beaucoup dit aux États-Unis que Kevin Warsh n'était pas clair du tout dans ce discours. Complètement faux, mais c'est aussi quand même ce qu'il cherche, et qu'il est tellement pas clair qu'on se demande même s'il a véritablement une idée derrière la tête. En fait, je le crois, et je voudrais en quelques secondes essayer de vous le montrer.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'en fait, Kevin Warsh, en gros, il est bien embêté parce qu'il a été nommé par Donald Trump qui lui dit « bon, faut baisser les taux ». Alors, c'est pas possible, mais en tout cas, faut pas les monter. Et tout le monde voit qu'avec cette bonne économie, il faudrait les monter. Alors, il essaye de gagner du temps en disant « on va faire des réunions, pas forcément quand on les faisait avant, on va pas se dire les choses avant, etc., etc., etc. » Et en fait, il a décidé une chose, c'est qu'il a décidé de laisser le marché, donc pas les taux courts, mais les taux longs, faire le job de ralentissement de l'économie. C'est-à-dire qu'il laisse s'envoler un petit peu, s'envoler entre guillemets, sous contrôle, le 10 ans et le 30 ans américains, de manière à ce que la pente des taux, je ne vais pas être trop technique, mais soit justement assez pentue. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux 2 ans, 0,2 ans qui est la banque centrale, et on laisse monter les 10 ans, 30 ans. Ça, c'est comme si dans votre voiture, vous utilisiez le frein moteur. C'est-à-dire que ça ralentit, mais ça ralentit doucement. Et c'est la différence entre appuyer un bon coup sur la pédale de frein, qui serait, je remonte les taux courts, de 25, 30 ou 50 points de base. Alors, c'est une stratégie, hein. Il a toujours dit qu'il était tenté de faire quelque chose comme ça. On repentifie la courbe des taux. Seul problème, d'abord, un, ça prend du temps. Deux, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne faire que tout d'un coup, vos 30 ans, ils explosent à la hausse. Et c'est là que vient le Japon. Puisqu'avec le yen qui était en train de filer et les Japonais qui essayaient de dire bah nous on va vendre du dollar pour acheter du yen et
oui.
essayer de combattre ça on a vu que pour la première fois, et il n'y a pas de hasard, pour la première fois depuis très longtemps, la Fed est intervenue à côté de la BOJ pour combattre et combattre le marché d'échange. Et forcément derrière ça il y a Kevin Warsh et il y a Bessent. Et c'est assez intéressant parce que pourquoi ils ont fait ça tout particulièrement un 31 juillet, hein. Alors oui, déjà le 31 juillet 2024, on avait eu la hausse des taux japonais qui avait mis le feu au marché en plein été.
Oui. Ouais.
Mais on a eu aussi le 31 juillet, comme par hasard, Donald Trump qui a dit aux Iraniens, bon écoutez, ça suffit ce week-end, hein, moi je vais taper très très fort et vous allez voir ce que vous allez voir. Sauf que il semblerait que les pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, ont dit « Attendez, nous on n'est plus d'accord de jouer à ce jeu-là. Si vous faites ça, nous allons vendre nos trésoreries, nos bons du trésor. » Ce qui ferait monter les taux. Et là, on comprend mieux que ce 31 juillet, il y a eu une sorte un petit peu peut-être d'effet panique en disant « Attention, le 30 ans va s'envoler. » Alors, l'Arabie Saoudite ne possède que 140 milliards à vendre.
Oui, mais c'est un signal super important.
Mais c'est hyper important, là où les Japonais, en plus, en ont 1100 milliards. Donc, vous imaginez bien qu'il y a une brèche à colmater. Vous voyez que tout est lié. Et comme par hasard, et je finis là, comme par hasard, normalement, hier ou avant-hier, lorsque on a compris que peut-être il allait avoir un accord avec les Iraniens, en toute logique, ça aurait dû être le ministre des Affaires étrangères, Rubio, qui vienne dire ça. Eh ben non, ça a été
Bessent, c'est Scott Bessent, ministre de l'économie. Ouais. Tout le monde s'est demandé pourquoi, d'ailleurs.
C'est étonnant. Et voilà. C'était peut-être un message à destination de l'Arabie Saoudite en vous disant ne vendez surtout pas vos trésoreries, on s'occupe de tout.
Ouais, très intéressant, hein, Sébastien Corchia. Tommy Douzier, vous êtes aussi sur ce scénario, c'est cette espèce de nœud qui va gouverner le marché sur le second semestre.
Oui, je rejoins ce que dit Sébastien, on est plutôt d'accord. Il a pu bien expliquer toute la mécanique derrière justement cette opération commune entre les États-Unis et justement la Banque du Japon, justement sur. D'ailleurs, ça n'a pas été fait depuis 1998, justement dans un objectif de protéger le marché obligataire américain et de soutenir aussi le yen. Donc ça, c'était plutôt une réussite. Et effectivement, le taux long américain à 30 ans a atteint un plus haut depuis 2007. Donc effectivement, ça devrait faire. Ça met le marché action sous pression, c'est certain. Mais tant que les résultats sont très bons, le marché tient. Et tant que effectivement la Fed a pu repousser, voilà, à septembre la prochaine hausse des taux. En tout cas, c'est ce que le marché anticipe. Il anticipe quand même une hausse des taux en septembre. Donc, et soit il y a une hausse des taux et ça pourrait faire en tout cas ralentir le marché action. Soit il n'y a pas hausse des taux. Et ça pourrait être aussi un manque de crédibilité, perçu comme un manque de crédibilité de la part de la Fed, et ça pourrait faire exploser les taux longs. Donc dans tous les cas, voilà, il y a quand même des pressions possibles sur le marché actions, et on va surveiller ça de près. En tout cas, il y a souvent des mouvements dans l'été qui viennent de l'Asie et qui font un peu basculer les marchés. Donc voilà, on surveille tout ça de près chez Zone Bourse aussi.
Gilles Santacreux, c'est vrai que bon, sur le yen, tout se joue entre 160 et 70 pour un dollar. Donc, en fait, le yen n'a pas trop bougé depuis hier. On est à 157. Mais ces histoires d'intervention concertée des banques centrales autour d'une monnaie quand il y a un problème, c'est pas sans rappeler ce qui s'était passé. Alors, c'était pas en plein été, mais ça avait mis en échec émat un nombre d'intervenants financiers totalement dingues qui étaient positionnés sur le franc suisse. Le jour où la Banque nationale suisse avait décidé de dépeguer sa monnaie par rapport au dollar, et c'était une décision totalement inattendue qui a eu un retentissement, mais alors monstrueux.
Alors, totalement inattendu, effectivement, mais quelques jours après, on a compris pourquoi la Banque nationale suisse, qui défendait ce PEG des 1,20 depuis quelques semaines, voire quelques mois, a fait cette annonce à ce moment-là. Lorsque l'on rappelle un petit peu ce qui s'est passé, et c'est là qu'on voit qu'il y a déjà eu des concertations de banques centrales, et bien, quelques jours après, la Banque centrale européenne a annoncé son premier quantitative easing de son histoire, et on a bien compris qu'en fait, la BCE, si elle avait annoncé donc ce quantitative easing sans en parler à la BNS, eh bien aurait accentué donc la pression sur la BNS, donc essayait de défendre justement sa monnaie. Et clairement, ça a été un message comme quoi voilà, les banques centrales peuvent agir de concert. Et ça a été un exemple assez marquant effectivement de l'histoire des devises.
Très très bien. Ben, on va passer au titre du jour quand même. Sébastien Corchia, bon, on a beaucoup parlé de SpaceX, notamment lors de son introduction en bourse. On en a encore plus parlé parce que le titre a quand même perdu 50% depuis ses plus hauts enregistrés juste après l'introduction. Là, c'était le grand oral pour la première publication des trimestriels du groupe depuis son introduction en bourse. Les chiffres sont excellents. Et le titre perd 8,5% là en ce moment du côté de Wall Street. Qu'est-ce que ça vous évoque du point de vue, alors du point de vue du gérant vraiment qui s'occupe de ces valeurs?
Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme au patinage artistique, il y a la figure imposée, la figure libre. La figure imposée, c'est les chiffres, et pour le coup, ils sont bons et ils ont été bien présentés par Elon Musk, et on a vu que dans toutes les divisions, le lanceur, le Starlink, l'IA, tout était bien, même au-dessus des prévisions, avec des pertes même en dessous de ce qui était attendu. Donc la figure imposée, vous avez la meilleure note. Et puis la figure libre, c'est le message qui va après. Et là, c'est confusing, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on a du Elon Musk dans le texte. C'est un peu objectif lune. On va faire 1 000 milliards de chiffre d'affaires en 2030, mais peut-être même dès 2029. Bien sûr, on ira autour de la Lune pour installer tout un tas de choses. Mais aussi, en même temps, on va faire du mobile terrestre. Alors, on se dit, mais attends, il va devenir un opérateur aussi mobile. Et on sait très bien qu'en bourse, les opérateurs mobiles, bon, c'est jamais les valeurs qu'on préfère. Et donc, et une question finalement, combien ça va coûter? Et on ne sait pas, si ce n'est qu'on voit des chiffres sur déjà un trimestre, rien que sur les fameux CAPEX, les investissements qui s'envolent littéralement. Et on comprend finalement que pour faire $1 de chiffre d'affaires, il vous faut $2,4 d'investissement. Alors, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour se dire qu'il y a un problème à la fin des fins. Donc, figure imposée, génial. Figure libre, c'est un peu comme à l'époque d'un Tesla et autres, et des robots taxis. On ne sait pas trop, ça me paraît loin, on n'arrive pas à réfléchir comme lui. Et on y rajoute une dernière composante, qui est une composante technique que tout le monde a compris, que tout le monde a calendrier. Et dès le premier jour, c'est qu'à partir de demain ou d'après-demain, des gens qui possèdent des titres ont le droit de les vendre. C'est ce qu'on appelle la levée des lock-up. Ouais. Et que naturellement, ça va amener des titres à la vente sur le marché. Ça fait un peu peur. Maintenant, je mets juste un petit bémol. Hier, l'action avait monté de 9%. Ouais. Aujourd'hui, elle rebaisse d'à peu près autant. Donc finalement, entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sanctions. Ouais. On va voir dans les prochains jours, parce que le titre a quand même beaucoup reculé, et on va voir véritablement si ce robinet des lock-up s'ouvre, parce que après moins 50% sur le plus haut, il y a peut-être des gens qui se disent « Oui, je ne vais pas vendre mes actions tout de suite. » Mais on sait quand même que ça va être un frein pour les prochains mois.
Un vrai arbitrage, ouais, c'est sûr. Tommy Douzier, votre avis sur SpaceX, ça reste quand même un objet boursier compliqué à investir.
Oui, SpaceX, c'est un petit peu un avenir en bourse. Effectivement, les résultats ont été très bons. Mmh. 92% de croissance à 7,9 milliards de chiffre d'affaires. Une perte moins grave que prévu. C'est un petit peu au-dessus des attentes surtout. le marché se concentre un peu plus sur les perspectives et sur les risques à venir. Ouais. On a vu, bon, c'est un groupe qui est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a plusieurs entités. Il y a une entité qui rapporte beaucoup de cash, c'est Starlink. C'est les lanceurs de satellites. Ouais. Donc c'est ça, c'est le cœur de l'activité. Effectivement, les chiffres sont très bons sur le cœur de l'activité, mais on a vu qu'il y a eu un recul du revenu moyen par utilisateur. Donc une baisse des marges aussi. Donc il faut le marché peut-être sanctionne un petit peu aussi ce manque de profitabilité sur ce segment-là, sur le cœur de SpaceX. Mmh. Et également, effectivement, comme il a été cité, les capex qui ont explosé à 18,4 milliards de dollars. Mmh. Donc effectivement, énormément d'investissements pour quelle génération de cash et pour quel avenir. On connaît un petit peu le passé de Elon Musk ou ses différentes entreprises. Il a tendance à un petit peu à être hors délai. Voilà, le marché s'inquiète un petit peu du retour sur investissement, tout simplement. Également Starship, hein, ça reste un objet très intéressant, mais aussi très risqué. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de Starship, et donc c'est la thèse centrale un petit peu autour de SpaceX. C'est ce qui fait rêver les investisseurs particuliers. C'est indispensable pour la prochaine génération, les prochains lancements de satellites Starlink. Ouais. Et voilà, avec l'IA aussi, l'IA spatiale. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes. Donc ça se matérialise dans une valorisation qui est très élevée. On parle de 40 fois la valeur d'entreprise sur l'EBITDA, même 40 fois le chiffre d'affaires et 85 fois l'EBITDA. Donc c'est effectivement, c'est valorisé parfaitement, alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la croissance future. Alors ils ont quand même réussi à construire un moat, un avantage concurrentiel que peu ont construit, enfin aucun, à part la Chine qui est en train de les rattraper. Mais voilà, effectivement, donc il y a beaucoup de risques et le marché sanctionne aujourd'hui davantage les risques et les perspectives qui sont floues.
Il nous reste 30 secondes. Gilles Santacreux, la configuration technique de SpaceX, qu'est-ce qu'elle vous dit après cette chute quand même de 50% par rapport au dernier plus haut et après l'introduction en bourse?
En termes d'analyse technique, on est un petit peu limité, hein, puisqu'on a des données de cotation qui sont seulement très récentes. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis le début du mois de juillet, on était dans une dynamique plutôt baissière, que la séance d'hier aurait pu nous donner un signal de retournement, mais il en a manqué un petit peu. Il aurait fallu passer au-delà des 130 dollars. Le fait que l'on ait ce retour à la baisse aujourd'hui, eh bien, nous remet finalement dans la continuité du mouvement que nous occupons depuis le début du mois de juillet. C'est-à-dire qu'on a eu l'effet d'annonce hier, on a eu une hausse des volumes, une hausse des cours, mais qui n'est pas confirmé aujourd'hui. Donc globalement, il en faudra un peu plus pour inverser la tendance qui reste donc baissière, sachant qu'une rupture d'une zone de point bas qui se situe sur des niveaux proches des 105 dollars, eh bien confirmerait la poursuite de ce mouvement. On reste donc sur une configuration assez fragile d'un point de vue court terme actuellement.
114,38 très exactement sur SpaceX lancement. Le titre est en baisse de 8,8%. Et on va en reparler dans quelques minutes dans le journal de 18h avec notamment Rolando Grandi d'Itavera AM, un grand spécialiste de l'investissement dans les sociétés du spatial, qui sera avec nous en fin de journal. On va décortiquer un petit peu ces résultats de SpaceX et puis brosser un petit peu les perspectives du spatial en bourse et du côté de l'investissement en tant que tel dans ces sociétés. Donc restez avec nous dans quelques minutes, le journal de 18h, et on se retrouve demain pour une prochaine édition de BFM Bourse.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.